Vous êtes toujours sur Radio Zone, Onde Femme 93.8 et nous continuons notre conversation avec nos amis de la librairie L'Inédite en ce moment à propos du dernier livre de Rosetta Loy, Rêve d'hiver.
Comment à l'intérieur de lui ou d'elle, du personnage en question, qu'est-ce qui se passe au niveau intérieur, au niveau des sentiments? Et c'est très très attachant.
Mais à t'entendre, Annette, on y gagne vraiment à lire plusieurs romans de l'auteur, en l'occurrence ici Rosetta Loy. Est-ce que vous qui avez toutes les deux beaucoup lu et essayé de justement un peu décortiquer le contenu des livres pour pouvoir le transmettre à est-ce que vous êtes rendu compte qu'il y a des écrivains qui gagnent à être connus avec plusieurs lectures, puis d'autres pas? Pas seulement dans l'histoire de dire on est déçu par le deuxième livre parce que c'est un remake, mais je sais pas, parce qu'il n'y a pas de réelle découverte, il n'y a pas d'un livre à l'autre, c'est des nouvelles histoires, mais enfin c'est un peu sur le même schéma. Là on a l'impression qu'on comprend de mieux en mieux. Est-ce que ça vous est arrivé souvent de lire plusieurs livres et d'avoir l'impression de percer un mystère chaque fois un peu plus? D'un même écrivain.
Un peu comme ça, que dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort, j'achète le livre, je veux le lire. Mais c'est des... Bon, parce que les deux, c'est des Sud-Américains, et ils ont un peu le même... Enfin, dans certains livres, ils se ressemblent un petit peu. Un, tu l'as cité au début, c'est Garcia Marquez. Et d'ailleurs, je suis malheureuse parce que j'ai pas. Il y a 12 contes vagabonds là qui se promènent et j'ai pas réussi. Mais je te dis, je le lis en espagnol lui. Alors je le cherche en espagnol le bouquin. Je l'ai pas trouvé encore. Et l'autre que j'achète comme ça sans réfléchir plus loin, c'est Isabel Allende aussi. Hein? C'est les deux qui me viennent à l'esprit maintenant. Mais oui, il y a des auteurs comme ça qu'on a envie de lire. Avec Annette, quand on avait 11 ans, on lisait comme ça les Alexandre Dumas. Oui. On a lu toutes.
C'était peut-être pas tout à fait pour le même genre de découverte.
Hein, la Reine Margot aussi. Vous avez
bon, en tout cas, j'irai pas voir le film parce que le livre, je l'ai au moins lu 2 ou 3 fois.
Toi, Annette, il y a d'autres auteurs que tu lis un peu. Choisis les yeux fermés comme ça par envie de poursuivre un chemin avec eux ou elles.
Oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a certains auteurs. Ben évidemment, Marguerite Yourcenar, j'ai tout lu, parce que c'est aussi un cheminement. Mais en plus, chez Marguerite Yourcenar, les livres obéissent au cheminement, c'est explicite chez elle. Alors c'est vrai que si on a lu la première partie, on a envie de continuer. Mais bon, même les romans qu'elle a écrits sur des personnages tout à fait différents de son style autobiographique, c'est vrai que je n'hésitais pas à les lire, et j'ai eu énormément de plaisir, chaque fois. Et c'est vrai que, en tout cas pour Yourcenar, le puzzle se met un petit peu en place quand on lit plusieurs livres d'elle. On comprend mieux, on peut faire un petit peu des relations entre les différentes histoires. Quelqu'un d'autre aussi dont j'achèterai les livres sans hésitation, en sachant que je ne serai pas déçue, c'est Le Clésio. Mais ça, c'est de la littérature écrite par des hommes. C'est vrai que c'est sûrement plus difficile de trouver dans les femmes qui écrivent des romans des suites de ce genre. Ben, il y a Maryse Condé, dont Evelyne a beaucoup parlé.
Maryse Condé, pareil.
Maryse Condé, c'est aussi quelqu'un qui, chaque fois qu'elle écrit un livre, on a envie de redécouvrir ce qu'elle a à nous dire, parce que ça complète un petit peu ses premières observations ou son premier message. Ça probablement.
Alors ça, je crois que c'est effectivement, si jamais, chères auditrices, vous avez des coups de cœur de ce genre à nous faire partager, ce serait intéressant, parce que c'est vrai que c'est des découvertes, hein, je crois. Bon, il y a ce que vous avez, parmi les écrivains que vous avez cités, il y en a des connus et des moins connus, mais je pense que, bon, Rosetta Loy, tu fais certainement découvrir à beaucoup d'auditrices, comme tu le disais, une écrivaine que peu de gens connaissent. Là, on a suivi un autre cheminement avec Evelyne depuis notre dernière émission avec Toni Morrison. Maintenant, cette fois-ci, une autre écrivaine noire, Mary Sicole. On pourrait sûrement en citer d'autres, mais je crois que c'est des fois des cheminements comme ça qui nous guident dans nos choix, tout en nous permettant des découvertes complètement nouvelles, nous font suivre hein, comme ça un fil rouge qui l'est souvent. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on arrive facilement à se passer les livres, parce que c'est ce qui fait qu'il attire quand on lui dit « Ah, mais moi, j'ai lu ça, puis tu sais, j'ai commencé comme ci, je suis allée comme ça. » Et c'est souvent ça qui attire, j'ai remarqué, l'attention des gens. C'est quand on arrive à donner ce fil rouge qui nous guide pour choisir le livre. Vous n'avez pas remarqué ça?
l'émotion que l'on ressent à lire un livre, elle est très diverse. Moi, j'aime toutes sortes de livres. J'aime beaucoup les biographies. J'ai parlé très souvent de biographies de femmes de différents styles à l'émission. Mais c'est vrai que le plaisir, l'émotion qu'on ressent à lire un roman, c'est tout à fait différent. Et c'est des plaisirs, j'ai envie de dire, pas forcément très fréquents. Moi, je ne trouve pas toujours évident de dire vraiment j'ai aimé d'une manière intérieure. Ça m'a vraiment parlé au niveau du cœur. Pas toujours. Alors qu'on peut lire des tas de livres parce que c'est intéressant, parce qu'on apprend quelque chose sur une époque, parce que ça correspond à des préoccupations philosophiques qu'on a, ou simplement parce qu'on a envie de rigoler et de se distraire. Alors, c'est vrai que le livre de Rosetta Loy ici, c'est quelque chose qui est beaucoup plus précieux. Et pour moi, c'est un souvenir très précieux d'avoir lu ce livre.
Est-ce que vous avez la sensation qu'on pourrait faire une émission sur les livres qu'on n'a pas aimés? À la limite, les livres même qu'on n'a pas réussi à lire jusqu'au bout, tellement ils nous déplaisaient. Qu'est-ce qui a fait qu'on a arrêté? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, à votre avis, ou on a trop rien à dire sur les livres qu'on n'a pas aimés?
Je suis sûre que ça serait barbant au possible, une émission comme ça. Moi, je fermerais le bouton. Ah non, alors... moi, il y a des livres que je n'aime pas. En général, je ne vais pas jusqu'au bout, déjà. Je m'arrête parce que ça me déplaît souverainement. Non, puis j'aurais pas du tout envie d'en parler. Ou alors on devient vraiment méchante ou partiale, c'est pas non plus le but.
Qu'en penses-tu, Evelyne?
Non, je pense un peu la même chose. J'ai pas envie de parler des livres que j'aime pas. Si y a un livre que j'ai pas aimé, je dirais simplement perds pas ton temps à lire ce bouquin, etc. Il vaut rien. Ou peut-être à tort d'ailleurs, parce que une autre personne, il apporte peut-être quelque chose, mais c'est tout. J'y penserai pas plus loin que ça.
On n'arrive pas à beaucoup disserter sur des choses qui nous déplaisent. Hein.
Même nous, dans notre catalogue de nouveautés, on a décidé que lorsqu'on on trouve un livre et qu'on n'aime pas, on n'en parle pas trop, et puis on l'élimine de la librairie pour n'avoir pas justement à le recommander alors qu'on l'a pas aimé. Donc on a beaucoup de peine. On ne va pas faire une émission, tu la feras toute seule.
Oh, jamais de la vie. Moi, j'ai cette énorme chance, dans Haute Femme Radio Zone, de ne pouvoir parler que des choses que j'aime. Il y en a qui sont tenues à parler de beaucoup de choses. Nous pouvons choisir. C'est un très, très grand privilège.
Ça, c'est sûr. Alors, moi aussi, j'apprécie énormément de me dire, bon, ben ça me plaît et je peux le faire d'une manière sans réfléchir trop. Et puis investir mon temps dans quelque chose comme ça.
Alors je vous dis juste en deux mots, moi, le livre que j'ai trouvé à Créteil, qui s'appelle Rêver en cubain, qui est un premier roman écrit par Cristina Garcia, qui est une cubaine, mais une cubaine qui a vécu aux États-Unis parce que, et c'est certainement son histoire qu'elle raconte, parce que sa famille est partie au premier jour de la Révolution. Et en fait, le livre nous raconte l'histoire de toute une grande famille, mais vraiment quasiment une tribu, et dont une partie vit encore à Cuba, et l'autre partie vit à New York, et même une partie en Tchécoslovaquie. On voit bien un peu toutes les voies. Il y a ceux qui ont quitté les idéaux, qui n'ont pas voulu s'identifier aux idéaux de la Révolution, qui sont partis aux États-Unis. Et puis, il y a ceux qui ont été à fond dans les idéaux de la Révolution, qui quelquefois se sont retrouvés en URSS et en Tchécoslovaquie pour mieux apprendre encore ce que le grand-papa et le grand-aîné disaient. Et puis il y a ceux qui sont restés et qui sont parfois partis dans toutes sortes d'immenses histoires, comme celui de la magie, comme l'école, comme les arts. Et puis tout ça, on découvre au travers essentiellement de la vieille révolutionnaire Celia Del Pino, qui est la grand-mère, et qui nous permet de découvrir un peu tous les autres membres de la famille, essentiellement des femmes et pas que des femmes. Celia, la grand-mère, et puis sa fille Lourdes, qui vit à New York, et la petite fille de Celia, Pilar, qui est très certainement Cristina Garcia, l'auteur de ce livre. Alors, si on compare Cristina Garcia à Garcia Marquez, je pense que c'est surtout lié à cette épopée familiale où on passe d'un personnage à un autre et qui, en même temps, nous permet de découvrir un aspect de la vie de Cuba, soit avant la Révolution, soit au tout début après, en même temps à New York, en même temps en Tchécoslovaquie, au travers de tous ces personnages très différents qui, d'une certaine façon, nous permettent de découvrir ce qu'est Cuba dans cette première phase de la Révolution, mais à travers des événements qui n'ont en soi rien de politique, Fidel Castro, par exemple, on en parle comme simplement le leader qui trône dans la maison de la vieille Célia et qui rêve des années après que le leader va débarquer chez elle, lui serrer la main, s'asseoir à côté d'elle et boire un verre avec elle pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour la révolution. Et c'est son grand rêve. Mais c'est quasi la seule note réellement politique dans tout ce livre. Tout le reste, c'est des touches comme ça qu'on découvre à travers le quotidien de ces gens, qu'ils soient à New York et qu'ils se rappellent ce qu'ils ont vécu avant de partir, ou bien qu'ils soient à New York et qu'ils rêvent de revenir à Cuba et qu'ils tentent même de le faire, comme c'est le cas de la petite fille Pilar qui va une fois s'échapper de chez elle et va arriver seulement jusqu'à Miami parce que là, sa famille, chez qui elle va momentanément se réfugier, la laissera jamais repartir pour aller jusqu'à Cuba rejoindre sa grand-mère. Mais elle y débarquerait quand même, finalement, avec sa mère, pour aller revoir la grand-mère une dernière fois à l'occasion de l'enterrement du grand-père. Mais ce sera une retrouvaille avec l'île, pas très fructueuse pour la mère, mais très fructueuse pour la jeune fille qui quand même décidera de retourner à New York, mais sait qu'elle a vraiment une terre d'attache à Cuba. Et c'est peut-être pour ça qu'on dit de Cristina Garcia qu'elle écrit en anglais, mais qu'elle pense en espagnol et que ça teinte beaucoup son écriture, parce qu'elle a vraiment un coin de sa tête qui est accroché à Cuba, bien qu'elle n'y vive pas. Voilà, alors ça c'est Cristina Garcia, Rêver en cubain, aux éditions de Noël, dans la collection Empreinte. Je crois que ça vaut la peine aussi de l'embarquer dans votre sac de voyage pour aller en vacances. Voilà, alors je ne crois pas qu'on va se revoir avant l'été, chers amis, non ? À vous entendre, vous êtes toutes si occupées, on ne va pas se voir encore une fois au mois de juin, mais vous, on se revoit au mois de septembre, vous serez de nouveau là ?
Sûrement.
Absolument,
septembre. Sûrement fait moisson de nouveautés à la librairie, sans aucun doute.
Alors on rappelle bien sûr que la librairie L'Inédite, c'est à Genève, rue du Cardinal Mermillot, que vous êtes ouverte maintenant quasi tout le temps, non ?
Oui, fermée le lundi matin, mais bien sûr ouvert à partir de 2h jusqu'à 6h30 le lundi après-midi, tous les après-midi. Le matin du mardi au vendredi de 9h à 12h et le samedi, alors il y a un horaire, disons, un petit peu différent, c'est-à-dire de 10h à 13h.
Yo no quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. De rodillas hecho ñagas que se postra al tirano. De rodillas hecho llagas se postra al tirano. No quiero ser el verdugo que de sangre manche el mundo, ni arrancar corazones que buscaron la justicia, ni arrancar corazones que amaron. El hombre que no se ahoga en su llanto ni se postra ante el tirano se mirará reflejado en las pupilas de su hijo y brotará como jazmín en el jardín inmenso de los niños del mundo. Quiero ser como el viento que recorre continentes y arrasar tantos males, estrellarnos entre rocas y arrasar tantos males, estrellarnos entre rocas.
C'est Martina Portocarrero que vous entendez en ce moment pour évoquer l'Amérique centrale. Et c'était Judy Morwait que vous avez entendu pour évoquer la Jamaïque. Les deux livres dont nous parlions, à savoir Cuba, à savoir la Jamaïque, à savoir l'Italie, eh bien, je vous dis rapidement les titres. Je suis une malle blanchie par Mary Cicole, Rêve d'hiver de Rosetta Loy et Rêver en cubain, Cristina Garcia. C'était avec nos amis de L'Inédite. Et tout de suite, nous allons retrouver deux porte-paroles du Fonds 1% pour le développement. Je vous l'ai dit, une association de fonctionnaires internationaux, fonctionnaires internationaux des organisations internationales étant sur le sol genevois. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fonds 1%? Pourquoi a-t-il envie de se faire connaître? Eh bien, vous le découvrirez en compagnie de deux femmes porte-parole de cette association.
J'ai retrouvé Regina Bucco et Sylvie Pichelin au Bureau international du travail, pas du tout pour parler du Bureau international du travail, mais pour parler du fonds 1% pour le développement. Alors Sylvie et Regina, de quoi s'agit-il? D'abord, premièrement, quel est votre rôle dans ce fonds 1% pour le développement? Peut-être pour vous présenter juste en quelques mots. Sylvie Pichelin.
Je suis coordinatrice du fonds 1% depuis 3 ans maintenant.
Regina Bucco.
Moi, je suis membre de ce qu'on appelle le comité de gestion, c'est-à-dire de ceux qui analysent les différents projets qui nous parviennent du monde entier et qui donnent un avis à l'Assemblée générale, oui ou non, est-ce qu'on peut financer un projet?
Alors, qu'est-ce que c'est que ce fonds 1% pour le développement? Je le résume en deux mots et nos deux invités en parleront largement de façon plus approfondie. C'est un fonds qui est constitué, comme son nom l'indique, de 1% tiré d'où? Des salaires, des fonctionnaires internationaux, des diverses organisations qui existent sur le sol de Genève. Gens, salaires donc versés bénévolement par les gens qui le veulent, qui se sont joints à ce fonds. Alors, à quoi sert cet argent, comme son nom l'indique aussi dans le titre? À soutenir des projets de développement dans le tiers-monde. Alors, il y a deux choses qui me donnent envie d'en savoir plus. C'est que, est-ce que vous dites dans un petit papier, en faisant un petit peu l'historique de votre association, que dans les années 70, votre association s'est créée en 1976, précisons-le, dans les années 70, où le développement, disiez-vous, le développement était une cause qui allait de soi. C'est dans ces conditions-là que le fonds s'est créé. Qu'est-ce qui allait de soi? Est-ce que c'était de soutenir comme individu des projets de développement, et c'est pour ça que cette association s'est créée? Ou est-ce que, pour les gens, c'était évident qu'il fallait aider le tiers-monde, alors tous les moyens étaient bons? Mais je crois qu'il est bon de préciser ce rôle de l'individu, parce que vous travaillez tous dans des grandes organisations internationales qui, tous d'une façon ou d'une autre, ont des liens avec le tiers-monde, et pourtant, en tant qu'individu, vous avez senti le besoin de vous engager pour soutenir des projets tiers-monde. Alors, pourquoi cet engagement de personnes individuelles?
Eh bien, je pense que c'est simplement en relais aux organisations dans lesquelles nous travaillons dans les années 70. C'est vrai que tout le monde parlait du développement et les Nations Unies ont fixé comme objectif, ont demandé aux États de verser 1% de leur PNB en tant qu'aide au développement. Et nous nous sommes dit, nous sommes soit dans des organisations qui font partie du système des Nations Unies, soit des organisations internationales qui se préoccupent de ce qui se passe dans le monde. Eh bien, pourquoi ne pas relayer cet effort qu'on demandait aux États de le relayer par nous-mêmes en versant 1% de notre salaire pour des projets de développement. Bien sûr, tout ceci étant relatif et restant dans la limite de ce que nous pouvons verser. C'est simplement un relais des objectifs que les Nations Unies se sont fixés et ont fixés à leurs États membres.
Mais Regina Bucco, est-ce qu'il y avait quand même une certaine forme de critique de ce que des immenses organisations comme celle affiliée par exemple aux Nations Unies peuvent faire dans le tiers-monde? Est-ce qu'à un moment donné, les gens se sont dit on pourra être, entre guillemets, plus efficace, plus concret, on pourra aller vers des projets qui nous importent plus que peut-être s'adresser directement aux États?
J'ai l'impression que dans les années 70, non, je crois qu'on n'avait pas de critique. C'était pas une idée nouvelle, mais c'était une idée qui avait emporté beaucoup d'adhésion de tout le monde. Et je me souviens moi-même qu'on parlait de « Oh, il faut absolument que les États donnent 1% de leur PNB ». Et je me souviens que c'est plus tard, dans les années suivantes, que finalement la déception est un petit peu venue, puisque je crois que la Suède dépasse les 0,50% de son PNB en aide au développement, mais qu'aucun pays, tous les autres pays sont loin derrière. Alors, au début, non, je ne crois pas qu'il y ait une critique. Il y a simplement la volonté de se dire, nous sommes dans ces organisations, nous allons suivre les indications et les objectifs des Nations Unies. Eh bien, pourquoi ne pas le manifester personnellement? Maintenant, c'est vrai qu'au fil des années, quand on a vu un petit peu la lourdeur, et c'est vrai, on ne peut pas la cacher, la lourdeur des institutions, quand on a vu aussi que les États étaient très loin de donner ce 1% pour le développement, effectivement, nous nous sommes dit, un, les administrations en général traitent d'État à État. eh bien, nous, en tant qu'individus, on va essayer de traiter d'individu à individu, c'est-à-dire d'essayer de toucher directement les communautés, les gens, pratiquement physiquement. C'est-à-dire que nous sommes à même de dire notre argent, eh bien, quand nous soutenons un projet, nous pouvons aller le voir, où qu'il soit dans le monde, et voir ce que cet argent est devenu. Et c'est un petit peu cela. Ce n'est pas vraiment une critique, mais c'est de faire à notre niveau ce que les États font au leur ou ne font pas au leur. Voilà.
Je lis dans le petit fascicule qui décrit ce qu'est le Fonds 1% pour le développement, une phrase qui m'a beaucoup frappée et qui illustre bien ce que vous dites maintenant. Nous avions envie d'agir en tant qu'individus pour essayer d'aider directement des groupes d'hommes et de femmes qui ont décidé de prendre leur destin en main. C'est-à-dire que, c'est effectivement, on ne passe pas par le canal des bureaucraties, des administrations, etc.
Mais il y a une chose qui est quand même très importante pour nous, c'est que ce n'est pas de la charité. C'est-à-dire que nous ne donnons pas de l'argent à quelqu'un pour qu'il en fasse quelque chose. Il faut que les gens vers qui cet argent aille d'abord soient l'initiateur de leur propre projet et participent, pas nécessairement d'une manière financière, mais d'une quelconque manière. Sylvie Pichelin pourra donner quelques exemples tout à l'heure de projets que nous avons faits et dans lesquels systématiquement la communauté vers laquelle cet argent va participe d'une manière ou de l'autre au projet, soit en donnant de la matière première, soit en donnant du travail. Mais c'est ça que nous cherchons à faire, c'est que ce soit un effort conjoint. Nous, effectivement, nous sommes des privilégiés, surtout dans ceux qui travaillons dans les organisations internationales à Genève. Les problèmes de développement, nous ne les connaissons qu'en allant par hasard en vacances ou bien en allant en mission, mais c'est vrai que nous sommes des privilégiés et que c'est une façon, oui, de tendre la main et de travailler ensemble au développement.
Il y a donc quand même dans l'idée de solidarité, l'idée de transfert de richesses. Nous, ici, on a des richesses dont on dispose en partie parce que nous avons un certain type de relation avec les pays du tiers-monde. Ce n'est qu'un juste retour.
Oui, encore que c'est un peu difficile parce que nous avons tellement de richesses par rapport à eux qui ont si peu de richesses. Je crois qu'on peut encore dire que 5% de l'humanité possède 75% des richesses. Alors évidemment, retourner la balance et une petite équipe comme nous, c'est pratiquement impossible. J'ai perdu le fil de mon idée. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'on se rend bien compte qu'on est très petit, qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Sylvie pourra donner tout à l'heure les fonds que nous distribuons par année. Moi, j'aime bien cette expression de dire que quand il y a des gens qui ont un projet en main et dans la tête, il faut leur mettre le pied à l'étrier. Je crois beaucoup dans ça parce que nous aussi, même si nous sommes privilégiés à un moment donné ou à un autre, on nous a aidés à mettre le pied dans l'étrier. C'est ça que nous essayons de faire. Ce n'est pas de la charité. Il y a un petit transfert d'argent, mais c'est surtout de se dire que s'il y a des gens de bonne volonté de part et d'autre et que ces gens de bonne volonté, il leur manque un petit peu d'argent pour justement faire démarrer un projet de développement, encore une fois, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va s'arrêter au bout d'un certain temps, ce n'est pas comme une marchandise que l'on achète, c'est au contraire un début de quelque chose, eh bien nous n'avons pas le droit de ne pas le faire, surtout encore une fois que nous sommes quand même très privilégiés.
Alors si aujourd'hui on parle plus publiquement de ce qu'est le Fonds 1% pour le développement, c'est que en fait le Fonds se pose un certain nombre de questions et qu'il a envie de faire connaître publiquement la question ou les questions qu'il se pose et d'associer d'autres personnes à ces questions. Là, je me base sur une conférence que vous convoquez le jeudi 26 mai prochain et à l'Institut universitaire d'études pour le développement, l'IED, on donnera tous les renseignements techniques tout à l'heure, et où vous avez invité un grand nombre de personnes pour discuter d'une question qui vous préoccupe en ce moment. Que faire de l'argent que nous avons dans notre fonds? Est-ce que vraiment, ça a encore un sens aujourd'hui de soutenir des projets comme vous venez d'en parler, Regina? Ou est-ce qu'on ne doit pas réenvisager, rediscuter les priorités, les méthodes de justement cette fameuse aide au développement? Alors, Sylvie, qu'est-ce qui vous a fait poser ce genre de questions? Est-ce que c'est d'abord parce que vous constatez, c'est un constat, que les membres du fonds plafonnent à 300 personnes sur 6000 fonctionnaires et que ce plafonnement vous questionne en vous disant mais on doit peut-être faire quelque chose de pas juste pour que les gens ne rejoignent pas plus depuis 1976.
Effectivement, on se pose actuellement cette question. Sur 6000 fonctionnaires internationaux, nous ne sommes que 300 à cotiser au fonds du 1%. Et effectivement, on est constamment sollicité pour des appels de fonds, par exemple l'aide non seulement au développement, mais particulièrement l'humanitaire. On se posait également la question, est-ce qu'il faut aider les gens à notre porte ou aider au développement plus tard? C'est pour ça qu'on aimerait convoquer ce panel de personnes qui s'occupent de problèmes très spécifiques, comme par exemple, est-ce qu'on devrait aider la culture, par exemple les exclus chez nous, est-ce qu'on ne devrait pas non plus acheter nos denrées commerciales à un prix plus équitable, parce que effectivement actuellement la situation notamment du café ou du cacao en Amérique latine et en Afrique, ils sont dans une situation absolument tragique.
Alors, toutes ces questions, vous voulez poser parce que, est-ce que l'ensemble des participants au groupe participent à ce type de discussion habituellement? C'est des questions que vous vous posez, justement. Ou est-ce que c'est justement le comité de gestion, ou je sais pas, les structures que vous avez mis en place pour gérer cet argent qui discutent de ces orientations de fonds? Ou est-ce qu'un peu tout le monde est associé à ce type de débat?
Vous avez tapé dans le mille, comme on dit. C'est-à-dire que ce qu'on s'est dit, c'est la chose suivante. Ça fait maintenant près de 20 ans que ce fonds existe. Ses objectifs, ses critères n'ont pas changé. Or, le monde, lui, il a peut-être changé. L'aide au développement, on le voit, avance difficilement. L'Afrique n'est pas toujours dans une très bonne situation. L'Asie est un peu meilleure. Et quel est le rôle de l'aide au développement? D'ailleurs, c'est une question qu'on pourrait se poser, de l'aide au développement versée sur le plan des États dans l'évolution économique de ces pays. Alors, nous-mêmes, on s'est dit, bien, est-ce qu'on peut verser de l'argent de la même manière qu'on faisait il y a 20 ans? Est-ce que les besoins sont les mêmes? Est-ce qu'on peut s'en tenir à des projets si petits? Parce qu'il faut reconnaître que chacun de nos projets ne peut dépasser une somme de 20 000 francs, ce qui pour nous paraît peu. Dans le tiers monde, souvent, ça paraît énorme. En fait, on s'est posé la question de comment faire de l'aide au développement maintenant, 20 années après la création de ce fonds.
Et donc, vous avez décidé de poser cette question à l'ensemble de vos membres?
Absolument. Et à l'ensemble de nos membres, et aussi à des personnalités de Genève qui, de près ou de loin, sont intéressées par ce type de problème, voire un autre. Parce qu'on s'est dit aussi, est-ce qu'il faut s'en tenir au développement, donc à des problèmes économiques? Est-ce qu'il ne faut pas diversifier, mettre dans le culturel, parce que l'homme ne peut pas vivre non plus sans culture? Bien sûr, l'éducation a toujours fait partie de notre fonds, et Sylvie pourrait donner quelques exemples de projets dans ce sens-là. Mais on pouvait peut-être ouvrir. Sylvie a abordé le problème des prix, le problème des prix des matières premières. Bien évidemment, notre fonds, tout modestement, ne va pas du tout résoudre ces problèmes. Mais on pense que, de temps en temps, il est bon de mettre à plat et surtout de consulter non seulement nos membres, mais des personnalités extérieures sur la place de Genève, parce que toutes les idées sont bonnes à prendre. Et éventuellement, on modifiera l'attribution de nos fonds, on les fera porter autrement. En tout cas, on essaiera d'être plus utile, parce qu'il faut que cet argent, justement parce qu'il est petit, soit cher, c'est-à-dire bien placé.
Je me permets de vous reposer la question, Regina. Est-ce que les orientations qui ont été jusque-là choisies par le fonds, par exemple, quand vous dites on a décidé qu'on attribuait pas plus que 20 000 francs à un projet, quand on décide de soutenir des personnes qui prennent leur destin en main et qui participent d'une certaine façon déjà au projet, donc qui ne reçoivent pas simplement de l'argent, mais qui ont déjà mis en place un certain nombre de choses, vous venez que compléter leur action, ces orientations-là, est-ce qu'elles ont été discutées toutes avec les membres de l'association? Est-ce qu'il y a une sorte de collectif de réflexion à l'intérieur du fonds? Ou bien est-ce que, quelque part, l'organigramme du fonds reproduit peut-être le fonctionnement de n'importe quelle organisation internationale? Qui de vous deux veut répondre à ça?
Je pense que Sylvie pourrait y répondre, parce que c'est la coordinatrice et qu'elle connaît le cheminement, comment, où arrivent les dossiers, comment ils sont étudiés, etc. Donc je pense qu'il vaut mieux que ce soit Sylvie qui prenne la parole.
Je voulais juste préciser dès le départ que les membres du comité de gestion sont tous des bénévoles. Ce qui fait que nous envoyons régulièrement des lettres d'information à nos membres, à peu près 5-6 par an, pour à chaque fois qu'il se passe un événement ou qu'on se pose un problème fondamental vis-à-vis des objectifs du fonds, nos membres sont toujours interpellés. Il se trouve, franchement, c'est vrai que dans les toutes type de ce type d'association, on n'a pas toujours le feedback de nos membres. Ce type de questions qu'on se pose actuellement, il a été débattu surtout au sein du comité de gestion et au cours de discussions avec certains de nos membres. Et c'est pour ça que nous avons décidé de refaire, comme dit Regina, une mise à plat des problèmes actuels dans une optique des années 90 plutôt que des années 70.
Alors peut-être, oui, Regina.
Oui, et puis il faut reconnaître aussi que nous sommes un fonds extrêmement démocratique, un petit peu à la Suisse, en ce sens que le comité de gestion analyse les projets et fait des recommandations à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale qui regroupe l'ensemble des membres du fonds 1% et qui donc peuvent lisent les dossiers, savent de quoi il s'agit, suivent notre avis et quelquefois le mettent en cause. Donc c'est vraiment une acceptation collégiale, si je puis dire, des projets.
Alors peut-être que pour que ce soit plus concret, la question que vous vous posez, que faire de notre argent, quel type, est-ce que c'est encore comme ça qu'on doit participer à du développement aujourd'hui, qu'on comprenne mieux, il serait peut-être bien de parler d'un ou des projets que vous avez choisi de défendre jusqu'à maintenant, et puis peut-être on pourra comparer avec les invités que vous avez pour votre soirée de jeudi et se dire ce qui risque d'apparaître comme votre projet à partir du moment où vous invitez un certain nombre de personnes à vous donner des propositions, puisque je crois que l'idée c'est ça, c'est que chaque personne a 5 minutes de parole et essaye de vous faire des nouvelles propositions. C'est ça le fonctionnement de la soirée ?
Oui, essayez surtout de défendre son propre domaine. Par exemple, Noël Constant s'occupe donc de la Coulou à Genève et plus principalement...
Donc précisons que la Coulou... Oui,
oui, des exclus de la ville de Genève. Parce que nous-mêmes, on se pose la question, effectivement, on aide des pays en développement. Mais on ne voit pas non plus les problèmes actuels qui se posent autour de nous. Donc c'est plutôt pour solliciter un débat. Je ne pense pas que nous, en tant que statuaires, on ne peut pas aider des projets qui se passeraient, je pense, en Europe. Quoique, ça aussi, on peut remettre en question. Je pense que c'est surtout pour essayer d'élever le débat. Effectivement, par exemple, la Fédération Genevoise de Coopération nous a déjà contactés. On a déjà financé quelques projets pour eux.
Alors, Sylvie, est-ce que vous pourriez nous dire, par exemple, en gros,